Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cette série de deux épisodes, je vous parle des mémoires de guerre en essayant de répondre à la question « Qu'est-ce qui se transmet de la guerre et comment est-ce agissant sur les générations suivantes ?» Je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur la manière d'aborder cette thématique. D'abord parce que les mémoires de guerre, prises au sens large, découlent de conflits extrêmement variés. La Révolution française, la guerre franco-allemande, les deux guerres mondiales, les guerres civiles espagnoles et italiennes, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, pour ne citer que celles-ci. Ensuite, elles concernent des situations totalement différentes les unes des autres, en fonction du rôle et de la place occupée pendant la guerre. Ce n'est évidemment pas pareil de la vivre en tant que victime de génocide, en tant qu'enfant, qu'adulte, en tant que soldat, en tant que mère ou femme de soldat. Et pour finir, les mémoires de guerre peuvent se manifester sous d'innombrables formes dans les générations suivantes. Bref, la tâche n'est pas simple. J'ai donc fait le choix de vous parler dans ce premier épisode des grands traumas des deux guerres mondiales et de leurs effets directs sur la génération suivante, parce que ça me semblait vraiment important pour comprendre ce qui se transmet ensuite. Dans le second épisode, je vous parlerai de la transmission des mémoires de guerre à travers le roman familial, des questions de loyauté et des transmissions transgénérationnelles. Quelques mots d'abord sur le vécu des soldats. Même si les chirurgiens de Napoléon avaient déjà mis en évidence le traumatisme dit « du vent de boulet » au moment de la retraite de Russie en 1812, qui caractérisait l'état de sidération aiguë dans lequel se trouvaient les soldats frôlés par un boulet de canon, ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, aux alentours de 1917, que les psychiatres ont commencé à reconnaître l'impact psychique de la guerre sur les soldats et qu'est apparu le concept de névrose de guerre. Dans son ouvrage sur les blessés psychiques de la Grande Guerre, le psychiatre des armées et professeur de psychologie Louis Cros détaille bien comment les conditions particulièrement atroces de la guerre des tranchées ont créé de sévères troubles psychiques chez les soldats, qui n'ont malheureusement pas été reconnus comme tels par l'armée au début de la guerre. Nombre d'entre eux, pris d'hallucinations et traversant des épisodes délirants, ont été considérés comme déserteurs et fusillés sur le champ par les conseils de guerre, particulièrement entre 1914 et 1915. Même si certains ont été réhabilités dans les années qui ont suivi la Grande Guerre, on peut imaginer la trace laissée dans l'inconscient familial par cette mort injuste et toutes les difficultés à faire le deuil de ceux qui sont partis dans ces conditions. À partir de 1917, les psychiatres de l'armée française ont officiellement reconnu l'existence d'une névrose de guerre, caractérisée principalement par des états confusionnels et anxieux, apparition de phobies et des épisodes délirants. Il existe peu d'études globales sur le devenir des soldats traumatisés de la Première Guerre mondiale. Les plus gravement atteints psychiquement ont terminé leurs jours dans des asiles. Les autres ont repris leur vie quotidienne, assaillis par des troubles anxieux, des manifestations somatiques en lien avec leur vécu pendant la guerre, des phobies, des cauchemars. Louis Cros résume ainsi. Cette Première Guerre mondiale aura laissé des séquelles psychiquement douloureuses et durables chez bon nombre d'anciens combattants, qui les garderont secrètes, par pudeur, par honte, ou parce qu'ils se rendaient compte que personne, dans une population tout entière à la joie de la paix retrouvée, ne pouvait les écouter ni les comprendre. Il n'empêche que tout le reste de leur vie, ils se sentiront séparés de leur famille et des gens de l'arrière, par une membrane invisible qui interdira toute possibilité de relation limpide à autrui, et ils auront du mal à reprendre leurs activités d'antan. Ce sont des destins compromis que la guerre leur a laissés en héritage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de soldats atteints de névrose de guerre aurait été multiplié par deux par rapport à la Première Guerre. Mais il a fallu attendre la guerre du Vietnam pour que les répercussions traumatiques de la guerre soient étudiées en profondeur et finalement reconnues en 1980 sous le terme de syndrome de stress post-traumatique. Aujourd'hui, on estime que près d'un quart des militaires ayant participé à un conflit armé sont victimes de ces troubles. La Deuxième Guerre mondiale est aussi marquée par le traumatisme psychique de ceux qui sont revenus des camps de concentration et d'extermination, traumatisme désigné sous le terme de syndrome du survivant. Il concerne tous ceux qui ont réussi à rentrer vivants des camps, et en premier lieu les Juifs, qui en plus des atrocités subies, avaient perdu la plupart des membres de leur famille, et qui bien souvent n'avaient plus rien quand ils sont rentrés, puisque tout leur avait été volé pendant la guerre. Les psychologues, psychiatres ou psychanalystes qui ont travaillé avec des rescapés ont tous souligné qu'il n'était pas possible de généraliser les troubles psychiques laissés par l'expérience des camps. Ils se manifestent plus ou moins intensément d'une personne à l'autre, en fonction entre autres de sa personnalité, de son vécu dans les camps, des facteurs de résilience qu'il a rencontrés au retour. Tel qu'il a été défini par la suite, le syndrome du survivant se manifeste, entre autres, par un sentiment intense de peur, une reviviscence de l'événement traumatique, des rêves traumatiques, des souvenirs récurrents, des périodes sensibles au moment des anniversaires, un état dissociatif, une irritabilité particulière, une perte de la capacité de concentration, une instabilité émotionnelle, une réduction de la capacité de modulation des peurs et des soucis. Plus précisément, dans son livre « Enfants de survivants », qui traite de la transmission du traumatisme chez les enfants des Juifs survivants de l'extermination nazie, la psychologue Nathalie Zajd évoque deux types de fonctionnement psychique mis en place au retour des camps. Soit un état dépressif continu, soit un clivage de la personnalité. C'est-à-dire que le fonctionnement psychique est en quelque sorte coupé en deux. Une partie s'est réadaptée à la vie quotidienne, mais une autre partie est comme morte et complètement déconnectée de la réalité. Si de jour, les rescapés des camps mènent une vie en apparence normale, la nuit, ils sont assaillis par des cauchemars traumatiques, photographiques, comme si la seule façon de ne pas sombrer dans la folie était de scinder les deux expériences, ces deux identités entre lesquelles il n'y a pas de lien logique. Le moi qui était dans le camp n'est pas le mien. Ce n'est pas la femme qui est là devant vous. Non, c'est trop incroyable. Tout ce qui est arrivé à cet autre moi, celui d'Auschwitz, ne me touche plus, ne me concerne plus, tant le souvenir profond et la mémoire ordinaire sont distincts. Sans cette dissociation, je n'aurais pas pu revenir à la vie, raconte Charlotte Delbault, une survivante de la Shoah. Le silence d'après-guerre, l'impossibilité de verbaliser, a renforcé ces troubles psychiques. Parce que leur expérience dans les camps était à la fois indicible et inentendable, beaucoup de survivants se sont tus. Pour certains, ce silence a duré toute leur vie. D'autres ont fini par parler, mais beaucoup plus tard, dans les années 80, quand leurs petits-enfants ont commencé à leur poser des questions. Et parfois seulement à l'extérieur de la famille, comme s'il fallait préserver leurs enfants de l'atrocité. J'ai choisi de mettre l'accent dans cet épisode sur le traumatisme du soldat et le syndrome du survivant, mais gardez en tête que chaque famille a été touchée, de près ou de loin, par la guerre. Et si tous les vécus de guerre ne font pas trauma, ils laissent souvent des traces indélébiles dans l'inconscient familial. Ce vécu de guerre, c'est celui des femmes qui se sont retrouvées seules du jour au lendemain et qui ont dû mettre en place des stratégies pour survivre, de ceux qui sont partis travailler en Allemagne dans le cadre du STO, des enfants qui ont vu partir leur père sans jamais le revoir, ou qui ont retrouvé plus tard un homme blessé, physiquement ou psychiquement, par la guerre. Des résistants qui ont vécu des mois ou des années dans le maquis, des enfants traumatisés par les bombardements, des enfants juifs séparés de leur famille, placés dans des familles à la campagne, de tous ceux qui ont été cachés, de ceux qui ont eu faim, froid, peur. Une des premières transmissions des blessures de guerre se trouve bien sûr dans le projet Sens des enfants suivants, c'est-à-dire dans le projet que les parents ont eu pour leurs enfants nés après la guerre ou après un génocide. Les enfants des gueules cassées de la Première Guerre mondiale, les enfants des soldats de la Seconde Guerre mondiale, les enfants des survivants de la Shoah, les enfants des appelés de la guerre d'Algérie, tous ceux qui sont nés après un traumatisme de guerre ont souvent été attendus comme des enfants réparateurs, chargés de ramener la vie et la joie. Le vécu des enfants des survivants de la Shoah a été particulièrement interrogé et documenté. La venue de l'enfant a pour fonction d'assurer la réparation et ou l'annulation du passé, nous dit Nathalie Zajd à propos de ses enfants. Ils sont la preuve ultime que le projet nazi a échoué, une revanche sur Hitler. Mais les attentes qui pèsent inconsciemment sur eux sont immenses. Ils se doivent d'être des enfants parfaits, qui ne causent pas de soucis à leurs parents, puisqu'ils ont déjà tellement souffert. Les enfants des survivants de la Shoah décrivent souvent, dans leur enfance, une impossibilité à se plaindre de quoi que ce soit, et pour certains même, une interdiction à être heureux qu'ils se sont eux-mêmes infligés, en loyauté à la souffrance de leurs parents. Ces difficultés se sont fréquemment accentuées au moment de l'adolescence, où l'agressivité n'a pas pu être retournée contre le parent. Dans l'ouvrage intitulé « Je ne lui ai pas dit que j'écrivais ce livre » de Nadine Vasseur, Brigitte Jacques, dont la mère est une survivante d'Auschwitz, témoigne. « Quand on est une fille de rescapée, ce n'est pas simple. Elle était passée par Auschwitz, c'était pour moi une sorte d'héroïne. L'attaquer, alors qu'elle avait vécu une douleur pareille, m'apparaissait à chaque fois que je m'y risquais comme quelque chose d'insupportable, d'immonde, d'atroce. Cette agressivité interdite d'expression a parfois été retournée contre les frères et sœurs, ce qui peut apporter après coup un éclairage sur les relations intrafamiliales. Certains enfants ont porté cette mission de réparation toute leur vie en se dédiant à leurs parents, certains l'ont concrétisé dans leur métier, d'autres l'ont transformé grâce à un travail thérapeutique ou à travers une expression artistique. Après la guerre, certains enfants portent en plus la lourde mission de remplacer les disparus, leurs aînés morts à la guerre ou dans les camps, leurs oncles et tantes ou leurs grands-parents, dont le deuil a été rendu impossible par la violence des événements, par l'absence de corps souvent et par l'absence de rituels. Beaucoup portent d'ailleurs les prénoms de ces absents. D'ailleurs, le syndrome de l'enfant de remplacement et les souffrances psychiques qui en découlent a d'abord été mis en évidence avec les survivants de la Shoah. Je vous renvoie à l'épisode consacré à ce sujet. Au-delà de l'imprégnation du projet Sens, les différentes études relatives aux effets de la Shoah, mais qui peuvent sans doute s'étendre à tous les grands traumatismes de guerre, montrent qu'une partie de l'énergie psychique des parents traumatisés a été consacrée à maintenir le clivage de leur personnalité, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à faire face à des sentiments continus et massifs de perte, ce qui les a rendus moins disponibles psychiquement dans la relation avec leur enfant. En d'autres termes, ils ont consacré souvent inconsciemment toute leur énergie à maintenir le traumatisme éloigné pour s'adapter à leur nouvelle vie, ce qui leur a laissé moins de disponibilité pour leurs enfants. Certains enfants de survivants, confrontés à l'instabilité émotionnelle et l'imprévisibilité des réactions de leurs parents, ont développé un attachement désorganisé, caractéristique des situations où le parent est à la fois source de sécurité et d'insécurité pour l'enfant. Cet attachement désorganisé se caractérise à l'âge adulte, en deux mots, par une alternance entre une hyperactivation émotionnelle, des crises de colère et d'angoisse, et une coupure émotionnelle totale. Il s'est souvent accompagné d'une parentification, c'est-à-dire que ces enfants sont devenus assez rapidement les parents de leurs propres parents. Ces enfants de survivants ont souvent grandi dans un silence inquiétant, conscients qu'il était arrivé quelque chose de très grave à leurs parents, mais qu'il ne fallait pas en parler pour ne pas les blesser, pour ne pas risquer de réactiver les souffrances passées. En réalité, nous savions, nous sentions, nous pressentions que ce silence ou cette extrême pudeur cachait une tragédie, écrit Danielle Laufer, écrivaine et journaliste, fille de rescapés des camps, auteur du livre « Venir après, nos parents ont été déportés ». La plupart n'ont pas posé de questions, malgré le tatouage sur le bras ou les marques sur le corps de leurs parents. Mais ils ont souvent été habités par l'expérience traumatique de leurs parents. Beaucoup ont décrit souffrir de cauchemars photographiques en lien avec cette expérience, même lorsqu'elle ne leur avait pas été racontée. Dans son livre intitulé « Le traumatisme en héritage », Hélène Epstein témoigne. « Pendant des années, tout est resté enfermé dans une chambre forte, enfoui si profondément en moi que je n'étais même pas sûre de ce que c'était. Je savais juste que je portais des choses glissantes et inflammables, plus secrètes que le sexe et plus dangereuses que n'importe quelle ombre ou fantôme. Les fantômes, eux, avaient une forme et un nom. Ce qui reposait à l'intérieur de ma chambre forte n'en avait pas. Quoi que ce fût, sa puissance était telle que les mots s'effritaient avant toute description. Parfois, il me semblait que je portais une bombe épouvantable. J'avais entrevu des visions de destruction. À l'école, quand j'avais fini un contrôle avant l'heure, ou bien lors de mes rêveries en rentrant à la maison, tout d'un coup, le monde sûr se dérobait et je voyais des choses dont je savais qu'aucune petite fille ne devrait les voir. Du sang et du verre brisé, des monceaux de squelettes et des barbelés noircis auxquels des morceaux de chair restaient accrochés, comme les mouches collent à un mur après y avoir été écrasées. Des collines de valises et des montagnes de chaussures d'enfants, des fouets, des pistolets, des bottes, des couteaux et des seringues. Pour la psychanalyste Yolanda Gampel, le trauma directement vécu par les parents se transforme en une réalité traumatique fantasmée par la génération suivante. Et le fantasme, par définition, n'a pas de fin. J'ai été très frappée par le témoignage que donne Danielle Laufer dans l'épisode du podcast Émotions, qui s'intitule « Comment les émotions de nos ancêtres nous construisent-elles ?» que je vous invite d'ailleurs à écouter. Elle dit « Ma mère était allée dans les camps, elle en était sortie. Mais moi, qui n'y suis jamais allée, je n'en sortirai jamais. Parce que pour moi, c'est des cauchemars, c'est des fantômes, c'est des angoisses. C'est quelque chose qui s'est emparé de moi, qui est entré dans ma vie, qui s'est infiltré dans mon sommeil. Ces enfants devenus adultes ont souvent été habités par des représentations qu'ils se sont fait du vécu de leurs parents, qui prennent lieu et place de leurs propres souvenirs d'enfance. C'est la notion de post-mémoire développée par la chercheuse Marianne Hirsch au sujet des enfants de survivants de la Shoah, qu'elle définit, je la cite, comme la relation que la génération d'après entretient avec le traumatisme personnel, collectif et culturel subi par ceux qui l'ont précédé, avec des expériences dont elle ne se souvient que par le biais d'histoires, d'images et de comportements au milieu desquels elle a grandi. Mais ces expériences lui ont été transmises si profondément et avec tant d'émotions qu'elles semblent constituer une mémoire en tant que telle. Même si chaque situation est particulière et qu'il n'est évidemment pas possible de donner un tableau clinique de l'enfant de survivant type, les études multiples, dont une grande partie sont présentées dans l'ouvrage de Nathalie Zajd, font état, chez les enfants de survivants, d'une grande vulnérabilité dans les situations de stress, d'une faiblesse du moi, d'un sentiment intense de culpabilité, d'anxiété, de dépression, de phobie, de réaction de panique, ainsi que d'angoisse de mort et de séparation. Par extension, ces conséquences directes sur la génération suivante peuvent s'appliquer à de nombreux enfants ayant grandi avec un parent souffrant d'un trauma de guerre. Projet sens tourné vers la réparation et ou le remplacement des disparus, mise en place d'un attachement désorganisé ou insécure, état dépressif et anxieux, plus nombreux que dans la population non exposée. Et finalement, quand on voit à quel point le projet sens et la vie psychique de ces enfants a été marqué par le vécu de leurs parents, on comprend qu'eux-mêmes ont eu inévitablement des attentes et des projections sur leurs propres enfants liées directement au drame de la première génération. Mais c'est aussi toutes les émotions non dites en lien avec ce traumatisme ou ce vécu de guerre qui se sont transmises aux générations suivantes. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, vous retrouverez en description de cet épisode tous les ouvrages que j'ai mentionnés. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.